Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode des Phocéens en Amérique. À l'animation, comme d'habitude, Adi Raphaël, toujours présent. En tout cas, ça fait super longtemps que j'en ai pas manqué de pod. Il y en a d'autres qui en manquent, mais écoute, voilà, c'est comme ça. De retour avec moi, encore une fois, Ludo. Salut Ludo, fidèle au poste.
Salut Adi, ouais, fidèle au poste. Il y en a d'autres, on sent que ça commence à flancher, la fin de saison est dure pour certains. Il y a besoin de recharger les batteries et de repartir à neuf la saison prochaine.
Ouais, vraiment, je pense qu'on a tous besoin de repartir à neuf. Mais on va en parler en long et en large, mon cher Ludo. Je veux juste préciser, les amis, que ce n'est pas aujourd'hui qu'on fera le bilan de la saison. Donc, on garde ça pour la semaine prochaine. Donc, pour ceux qui nous écoutent cette semaine, ça va être super cool. Mais la semaine prochaine, on aura un épisode spécial qui sera le bilan joueur par joueur, avec la fameuse façon de des Phocéens en Amérique de noter les joueurs avec les Phocéos. Pour ceux qui ne savent pas, rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir le format qu'on choisit à chaque année, en fin d'année, pour faire le bilan de l'Olympique de Marseille. Aujourd'hui, parlons de cette dernière journée, mais surtout commençons par parler de l'actualité de l'Olympique de Marseille avant même de parler du match, puisque le match est complètement anecdotique. Parlons de la décision d'Igor Tudor de quitter l'Olympique de Marseille à la fin de cette saison. Il y a eu plusieurs rumeurs, Ludo, autour de ça. On ne sait plus trop quand croire aux rumeurs et quand ne pas y croire. Finalement, ça a été officialisé en avant-match, ce qui est aussi un peu bizarre. En avant-match de ce match contre Ajaccio, le départ d'Igor Tudor à la fin de cette saison, sans dresser le bilan qu'on va laisser à la semaine prochaine, t'as pensé quoi de cette décision de la part d'Igor Tudor? Logique, pas logique, attendu, pas attendu? Ton avis là-dessus, Ludo?
Bah, écoute, je comprends pas le timing déjà, parce que pour moi, donner la veille du match... Je ne vois pas l'intérêt, ni pour lui, ni pour le club. Et surtout, je pense que ça, même si tu dis que c'est un match anecdotique, pour moi, il n'y a aucun match anecdotique. De décider avant le dernier match, ça met dans une position aussi où c'est moins concerné pour le match. Ça, c'est la première chose. Après le départ, ça fait un moment que ça en parlait. Donc voilà, on sait qu'il est courtisé par la Juve. Effectivement, si la Juve le demande, ce n'est pas surprenant qu'il accepte. Maintenant, surpris, parce que je pense qu'avec ce qu'il a fait cette année, il y avait peut-être possibilité de passer encore un cran l'année prochaine et que ce soit pour lui ou le club, d'essayer de faire de la stabilité. C'est un entraîneur qui a changé tous les ans de club depuis qu'il entraîne, je crois. Peut-être que ça lui aurait fait du bien aussi de la stabilité, mais bon, apparemment, il n'était pas prêt à ça. Donc, plutôt surprenant que ça soit sa décision. S'il ne signe pas la Juve, je serais très, très surpris. Après, si c'est pour aller à la Juve, il se dit peut-être que le train ne passera qu'une fois.
Ouais, c'est curieux parce que, comme tu l'as dit, c'était quand même un projet qui commence. Il a changé beaucoup de choses au sein du club. Il a amené cette rigueur et ainsi de suite. On en a beaucoup parlé. Et même les joueurs en ont beaucoup parlé. Tu me parles du fait que c'est possible qu'il aille à la Juve. Il y a quand même un très, très grand entraîneur du côté de la Juve aussi, Allegri. Et pour le dégager de là, je pense que ça coûterait à la Juve à peu près 20 millions d'euros. C'est pour dégager Allegri de son poste. Oui, il y a ces rumeurs-là, mais je ne sais pas combien j'y crois personnellement. Est-ce que tu regardes ça et tu te dis, pour l'Olympique de Marseille, est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que c'est une mauvaise chose de voir Igor Tudor partir? Tu as parlé de la continuité, de la stabilité qui serait quand même, qui aurait été intéressante, mais est-ce que c'est l'homme de la situation, Igor Tudor?
Écoute, moi j'ai deux lectures à ça. C'est vrai que les gens qui écoutent le pod ont l'habitude ou qui me suivent sur Twitter, oui, je prends cette stabilité. Moi, je rêve d'avoir un entraîneur qui, sur 3 ans, monte un projet. Maintenant, après justement en avoir beaucoup parlé, etc., on se rend compte que c'est très très dur pour un entraîneur à l'OM de faire 2 saisons d'affilée. Et de réussir, enfin 2 saisons, il y en a qui l'ont fait, mais de réussir 2 saisons d'affilée, il n'y en a pratiquement pas, à part Deschamps sur les 20 dernières années. Donc ouais, moi j'aurais aimé ça, j'aurais aimé de la stabilité. Maintenant, on se rend compte quand même qu'il y a, lui, le dit le premier, un an à l'OM, c'est 3 ans dans un autre club, quoi. Donc je pense que ce club, il l'épuise physiquement, mentalement, etc. Et est-ce que, du coup, je me pose la question, je ne sais pas ce que tu en penses, mais est-ce qu'on a un club qui est capable d'avoir un entraîneur pendant 3 ans qui a les épaules pour construire quelque chose comme ça? On a eu Deschamps, mais on sait que de ce côté-là, c'est un entraîneur exceptionnel au niveau du mental, au niveau de la pression, au niveau de tout ça. Est-ce qu'il y a un entraîneur qui est capable de résister comme ça pour un vrai projet? C'est la question que je me pose. Donc en soi, oui, j'aurais aimé. Maintenant, on sent qu'il y a un gros épuisement de son côté et peut-être des joueurs, certainement aussi. Donc, c'est l'avenir nous dira. Pour l'instant, j'ai du mal à savoir. Moi, en tout cas, personnellement, j'aurais préféré qu'il continue encore un an pour valider ce qu'il a fait cette année.
Ouais, ben, je suis quand même d'accord avec toi. J'aurais aimé le voir rester plus longtemps. Juste, pas parce que c'est Tudor, c'est plus pour garder cette stabilité. Et comme j'aurais aimé que Sampaoli reste encore une année de plus,
Oui, bien sûr.
malheureusement, ce n'était pas possible. Puis j'ai comme l'impression, en regardant un peu comment ça s'est terminé avec Sampaoli, comment ça se termine avec Tudor, j'ai comme l'impression que à l'OM, on a la pression d'un club qui joue la Ligue des Champions pour gagner la Ligue des Champions. On a la pression équivalente d'un club qui joue pour gagner la Ligue des Champions avec un effectif qui est à peine suffisant pour se qualifier pour la Ligue des Champions. Et je trouve que des fois, la pression est tellement forte sur les entraîneurs. De par le fait que c'est pas c'est y a, y a pas y a pas c'est pas balancé en fait. C'est pas, écoute, voilà notre budget, voilà la pression qui vient avec, qui est équivalente à ce budget. C'est disproportionné en
Non,
fait.
mais après.
Voilà notre budget, sauf que tu dois faire 15 fois mieux que ce que ton budget te permet de faire. Et c'est là où je vois pas un entraîneur accepter ça. Sur la durée, parce que c'est difficile de surperformer tout le temps.
Je suis d'accord avec toi. Et on en parle souvent, pas entre nous, mais on en parle souvent avec beaucoup de monde aussi. Le problème, c'est que déjà, on a des supporters qui, je pense, ne se rendent pas forcément compte du niveau de l'OM aujourd'hui et de la place de l'OM dans le foot européen. Ok, on va pas faire le bilan, mais ok, la saison n'est pas parfaite, mais maintenant, quand tu fais un podium de Ligue 1, 2 fois, 2 années d'affilée, tu peux pas. Et que tu entends parler les gens, tu as l'impression qu'on est relégable. Et la deuxième chose, après, c'est les médias. C'est les médias que le club le plus populaire de France. Donc, il faut en parler tout le temps. Donc, il faut faire des émissions à tire-larigot. Il faut tout disséquer, tout taper. Dès qu'il y a un rhume à l'OM, il faut que ça prenne des proportions monstrueuses parce que ça fait de l'audimat, parce que ça fait du papier, parce que ça va être suivi. Et c'est très, très dur. Et il y a une dernière chose, c'est qu'en France, il y a un corporatisme entre médias, entraîneurs, etc. Et que regarde les entraîneurs qui se sont fait le plus taper dessus, c'est les entraîneurs étrangers de l'OM. C'est malheureux. Mais demain, alors, moi, je veux pas parce que je supporte pas. Mais, et encore cette année, il s'est quand même bien fait taper dessus. Mais tu vois, un mec comme Galtier, il a ses réseaux dans les médias, il a ses contacts, il sait faire, etc. Et quand ça s'est moins bien passé à Nice, eh ben, on le laissait tranquille parce que Nice, déjà, n'est pas autant exposé et parce qu'il a toujours des gens pour les défendre dans les médias, etc. À l'OM, avec un étranger, quand tu vois ce que s'est pris Bielsa dans la tête, ce que s'est pris Sampaoli, ce que s'est pris Tudor cette année, tout n'est pas parfait, hein, mais je pense que le traitement, il est injustifié par rapport à ce que donnaient ses entraîneurs. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas un bon entraîneur, mais surtout un grand communicant à l'OM, qui soit capable un peu
Ben,
de se mettre les journalistes dans les poches, etc.?
ben, tu sais, on a eu quelqu'un qui était un excellent communicateur. Attention, je dis un excellent communicateur seulement, qui était Rudy Garcia, qui est quand même très, très bon en com. Puis ça n'a pas non plus fonctionné, hein. Donc, tu sais, c'est pas comme s'il avait
Ouais,
eu.
mais il a pu rester, il a resté plus, il est resté quand même plusieurs années et il s'est pas fait démonter comme il devrait dans les médias, je trouve.
Oh non, 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 il s'est vraiment fait démonter comme il faut, hein. Je suis désolé, mais je pense pas que c'est la pression des médias qui est difficile sur un coach. Je pense que c'est la pression tout court, médias, supporters et ainsi de suite. Tu regardes quelqu'un comme Tudor qui se fait siffler avant son premier match.
Ah, mais ça, on est d'accord.
Tu vois, donc tu me parles de la pression des médias, mais moi je trouve que c'est la pression des supporters aussi. Donc
Alors.
moi je parle de la pression en tant qu'un tout, qui est pour moi, qui fait en sorte pour moi que c'est difficile pour un entraîneur de rester 2 ans de suite à l'Olympique de Marseille et de performer 2 ans de suite. Je suis parti vérifier pour Rudy Garcia qui est resté à 3 ans. Bah, tu regardes un peu son
Exact.
bilan, 69 victoires, 31 matchs nuls, 42 défaites. C'est très moyen comme bilan.
Il est resté 3 ans. Tu vois, donc c'est
C'est
là où
très
je pense.
moyen. C'est
Oui,
très,
mais on
très
est d'accord.
moyen.
C'est pour ça, je te dis, un entraîneur étranger fait ça, je peux t'assurer qu'il y a tellement la pression populaire qu'au bout d'un an, il est sauté, quoi, tu vois.
Non, parce que la
Donc,
première année, il a été quand même bon, Rudy Garcia. C'est la deuxième
ouais.
où la deuxième, c'était
Après,
correct, et c'est la troisième où c'était du n'importe quoi. Donc,
elle dit, cette année, au niveau de la pression populaire, on va dire. C'est très paradoxal parce que certes, Tudor s'est fait insulter les 2 premiers matchs et siffler, et je pense que ça a joué dans sa décision aussi dans la tête. Parce que quand on n'a pas envie de toi quelque part, même si tu fais du bon boulot, à un moment donné, tu as de l'orgueil, ça a dû rester. Mais tout le reste de l'année, on n'a jamais eu un public qui a été derrière l'équipe comme ça. Même
J'avoue que
après la défaite
le public était
d'Annecy,
très engagé, j'avoue.
Après la défaite d'Annecy, ça a quand même, bon, ça a un peu sifflé à la fin du match, mais dès le match d'après, ça a applaudi, ça a soutenu. Tu vois, l'élimination en Ligue des Champions, derrière, ça n'a pas sifflé, ça a applaudi. Enfin, tu comprends, tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
Il y aurait eu d'autres années, la défaite d'Annecy, ça aurait mis le feu au club, quoi, tu vois. Et cette année, c'est
Ouais.
quand même resté très tranquille et ça a soutenu jusqu'à la fin, quoi.
Oui, je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord. En tout cas, décision bizarre, timing bizarre. D'un autre côté, je pense que personne ne va s'en tirer le bilan, mais je pense pas que quelqu'un, que ce soit média, que ce soit supporter, que ce soit analyste, qui que ce soit, va se dire, ah, oh, j'aurais aimé que tu dors. Reste là l'année prochaine pour Tudor. On aurait aimé la stabilité, mais
Oui, on est d'accord.
je pense pas non plus qu'on va regretter le personnage ou le coach en tant que tel. Donc, ça, c'est un peu mon analyse de la chose. Pas dire qu'il a été mauvais ou quoi que ce soit, mais il n'a pas été non plus spécialement extrêmement bon. Mais on en parlera en long et en large la semaine prochaine. Dernier match du Girl Tudor. Ça se joue à Ajaccio, Ajaccio déjà relégué.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. On regarde le 11 de départ et on va parler beaucoup de ce 11 parce que je pense que c'est très important. On a Ruben Blanco dans les buts. En défense centrale, Kolasinac avec Mbemba et Valerdi. Au milieu de terrain, Guendouzi avec Vertu. Qui sont à ce moment-là les deux, sachant que Rongier est suspendu, qui seront les deux qui joueront dans l'entrejeu. Les deux pistons, c'est Klos et Caboret. Et devant, on a Under et Malinovski qui soutiennent Alexis Sanchez. Tu regardes un peu ce 11 de départ. Et c'est quoi que tu te dis, en fait, Ludo, sachant que... Ah, laisse-moi te donner le banc aussi, parce que je pense que le banc est extrêmement important aussi dans ce match-là, à mon avis, et on va en parler aussi. Donc, sur le banc, on a Paulo Lopez, Eric Bailly, Nuno Tavares, Vitinha, Régis Mugue et Bartók Elmas. Donc, t'as pensé quoi du 11 et du banc de Igor Tudor?
Bah écoute, moi il y a encore deux lectures en fait à ça. C'est
aujourd'hui tu joues vraiment le philosophe, hein. Ouais, t'as pas d'avis, t'es très neutre, t'es non, très. Parce que d'habitude t'as des avis assez tranchés. Aujourd'hui tu joues le politicien là.
Je trouve que c'est assez compliqué ce qui s'est passé hier, parce que quand tu vois le début du match, tu peux te dire. Bah écoute, il a mis l'équipe type en faisant plaisir à Blanco parce qu'il a été un très bon 2 toute l'année, etc. Donc, il y va pour gagner Ajaccio. Donc, plutôt positif. Et puis après, tu te dis, bah, pourquoi il n'en profite pas pour redonner la confiance à Vitinha? Pourquoi pas aussi, déjà, être peut-être sur le banc. Tu peux dire, bah, il a encore de la place. Pourquoi il ne va pas chercher des jeunes du centre ou leur donner une première expérience au moins sur le banc. Donc, c'est un peu la réaction que j'ai eue hier. OK, bah, il y va pour gagner le match avec son titulaire. Bah, ça, c'est bien. Après, en deuxième lecture, tu te dis, il aurait pu en profiter, oui, pour donner la confiance à Vitinha, pour peut-être essayer des jeunes, pour essayer autre chose, vu qu'il n'y a pas d'enjeu. Et voilà, c'était un peu ma réaction quand j'ai vu la compo.
Bah, honnêtement, j'ai un avis beaucoup plus tranché que ça. J'étais furieux en voyant la compo. Mais alors, furieux. Furieux, 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 furieux. Pour moi, il y a des joueurs qui n'avaient pas besoin d'être là. C'est le dernier match de la saison. Ça se joue à l'extérieur contre une équipe reléguée. Tu peux déjà envoyer en vacances certains joueurs qui ont été des cadres durant toute l'année, qui ont été fatigués, ainsi de suite.
Comme qui?
Pour moi, Paulo Lopez n'avait pas à être ni sur le banc ni ailleurs, par exemple. Ça, c'est une des choses. Tu peux, par exemple, donner off à Balerdi, qui a fait un très bon travail. Tu peux donner off à Vertu, qui a fait un très bon travail. Tu peux donner off à Under. Pour moi, ça, c'est les joueurs qui n'auraient même pas dû être dans le 18. Ça, c'est, à mon avis, pas du tout dans le 18. Après, j'aurais mis Blanco, très bonne décision pour Blanco. Je comprends Kolasinac parce que tu ne sais pas s'il va rester ou il va quitter. Ça, c'est sûr. Peut-être c'est son dernier match avec l'OM. Je peux comprendre ça. Je peux comprendre Mbemba parce que Mbemba, à un moment donné, est un peu déçu du fait qu'il joue un peu moins. Donc, parfait, on le met Mbemba. En tout cas, il faut aussi que tu aies un peu cette niaque. Après... c'est le dernier match de Bailly, peut-être lui donner sa chance à Bailly à ce moment-là. Et sur le banc, ben, tu mets des joueurs, des jeunes joueurs. Et j'ai beaucoup aimé le tweet de Cordobastien et c'est Julien qui nous l'a envoyé en off et qui dit « C'est bien d'avoir acheté Soglo, Seha, Nyakosi, faire signer Madi en pro ou encore Ryan Assad. Mais ne pas les voir dans un match comme ça, et après ça va pleurer parce que les maires de Marseille ont récemment signé à Lyon et à Nice. On en parle très souvent. Ces jeunes-là, c'était le moment idéal pour les avoir au moins sur le banc et leur donner des minutes de jeu parce que le match n'était pas important. Et en donnant des minutes de jeu, on s'en fout du résultat. Mais les petits jeunes qui ont 12, 13, 14 ans, ils se disent « Ah, tu sais quoi ?» Voilà, à l'OM, les gens sont en train de donner des chances. La nouvelle direction commence à donner des chances. Ben, je vais signer à l'OM au lieu d'aller signer à Nice ou à Montpellier ou à Lyon ou ainsi de suite. Donc, ça, c'est pour ce qui est de la défense. Si je regarde les milieux, je continue un peu mon analyse. Guendouzi, je comprends aussi. C'est possible que ce soit son dernier match. Je comprends ça très bien. Vertu, ça sert à quoi? Ça sert à quoi qu'il joue? Pourquoi on ne met pas Elmas? Elmas a fait une excellente saison avec la réserve. Pourquoi tu ne lui donnes pas un départ? Pourquoi tu ne le remercies pas? Pourquoi tu n'as pas des joueurs de ton équipe réserve qui vient et compléter le banc? OK, devant, Malinovski, je comprends. C'est un joueur qui a besoin de rythme, qui a besoin de gagner de confiance et ce sera bien pour sa confiance pour l'année prochaine. Tu vas lui donner un peu du peps et lui dire, tu sais quoi, c'est toi qui vas encadrer tous ces jeunes-là, je te fais confiance et ainsi de suite. Je peux comprendre ça. Under, ça sert à quoi qu'il soit là? Il a été performant toute la saison. Pourquoi ne pas voir quelqu'un d'autre? Pourquoi ne pas voir une association de nouveau Sanchez-Vitinha? Pourquoi ne pas donner une chance à Régis Mugue en tant que titulaire qui a quand même rendu quelques services minimes à l'équipe première et qui a été encore très bon avec les U19 dernièrement? Et pourquoi tu ne mets pas d'autres joueurs de ta réserve pour leur dire « Hey, les amis !» C'est bon, vous avez une chance de vous montrer ici, que ce soit sur le banc, pas, je ne parle pas en tant que titulaire, mais que ce soit au moins sur le banc. Tu regardes le banc de l'Olympique de Marseille et puis tu te dis, bof, il n'y a rien qui est intéressant. Moi, je suis en train de regarder le dernier match de la saison en tant que supporter. Je suis content ou pas content, dépendamment de la saison, et on en parlera la semaine prochaine. Et je me dis, c'est quoi qui m'intéresse dans ce match-là? C'est de regarder de nouvelles choses. C'est de regarder le futur, l'avenir de ce club-là. Et non pas regarder un énième match avec le même groupe pour en plus un résultat qui est merdique. Si jamais on avait perdu 3-0 avec des jeunes, on se serait dit, OK, ils ne sont pas prêts. Mais tu sais, au moins, on leur a donné un peu de temps de jeu. Au moins, ils ont réussi à se prouver. Au moins, tu aurais vu l'envie, tu aurais vu la volonté de vouloir se prouver, de vouloir gagner un contrat, que ce soit un contrat professionnel, que ce soit une place dans le groupe l'année prochaine. Tu aurais vu quelque chose. Là, tu n'as rien vu. Tu n'as rien vu du tout. Donc non, vraiment furieux en regardant cette composition. Et alors, le banc de Igor Tudor.
Après, il y a une donnée que je n'ai pas. Est-ce que la réserve n'avait pas un match important ce week-end-ci?
Je peux aller vérifier, mais je ne pense pas parce que je ne pense pas qu'ils
Non, mais ça peut être une donnée aussi. Donc, les U19, ils ont joué il y a 3 jours, là, la demi-finale contre Paris. La réserve, est-ce qu'ils n'avaient pas un match important aussi ce week-end, tu vois, parce que
non, parce que je ne pense pas parce qu'ils jouent quoi? Ils jouent en National 3. Il joue en National 3 et puis le championnat
est fini.
Allons voir. On va aller voir. Je ne sais pas s'il est fini, mais je pense que oui. Mais on va aller vérifier pour être sûr. J'essaie de trouver. Alors. Ouais, il est fini. La semaine passée, il est fini. Le 27 mai, c'était le dernier match de la réserve.
OK.
En tout cas, c'est ce que je vois sur l'équipe. Si jamais je me trompe, je suis désolé. Mais ouais, et ils finissent. Et ils sont maintenus. Ils ne sont ni en train de monter ni de descendre. Ils sont en 7e place au milieu de classement.
OK. Non, c'était juste pour voir si ça pouvait être une explication.
Mais c'est ça le truc. C'est que tu arrives à un moment où ça fait plus de sens, ça fait plus de sens, ça fait plus de sens. En tout cas, aujourd'hui, ça faisait pas de sens. Continuons un peu, parlons un peu de ce match-là, Ludo, parce qu'il y a quelques petits enseignements à retenir de ce match-là. Ça commence assez vite et le premier joueur qui se met en évidence, c'est Ruslan Malinovski qui teste Benjamin Leroy en face. Un tir finalement qui est un peu sur Leroy, mais Leroy fait quand même un arrêt. On a senti Ruslan Malinovski extrêmement revanchard hier. Je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai senti que Ruslan voulait vraiment, vraiment, vraiment marquer, voulait vraiment mettre sa patch. Ça fait longtemps, depuis qu'il est venu, je pense que c'était le match où il a montré le plus d'envie, à mon avis. Je sais pas ce que tu en penses.
Oui, oui, je suis d'accord avec toi là-dessus. Et après, tu vois, ce qui est bizarre aussi, c'est que les joueurs que tu disais que tu aimerais bien voir au repos parce qu'ils ont fait une bonne saison, bah, c'est ceux qui ont été présents dès le début du match hier et qui ont montré de l'envie.
Malinovski, j'ai dit qu'il fallait qu'il soit
titulaire. Non, mais je fais le lien avec ce que tu disais tout à l'heure pour les autres joueurs avec lui. Mais oui, oui, Malinovski a montré une envie de faire mieux et d'être présent sur ce match. Et c'est peut-être un match qui lui correspondait aussi un peu plus, car on a eu la possession et qui était peut-être plus à l'aise comme ça aussi que sur le jeu de transition.
Effectivement. Après, il n'y a pas eu vraiment de grosse action pour une bonne... jusqu'à presque la fin de la mi-temps. Il y a vraiment, ça a été très fade. On sentait que, encore une fois, les joueurs non concernés. Le seul qui, je pense, a fait quelques bonnes interventions, c'était Balerdi en défense. Je trouve qu'il a fait un bon match. Puis à la fin, de nouveau, on a un arrêt de Benjamin Leroy. Guendouzi qui fait une superbe passe, mais alors vraiment une superbe passe à Malinovski. Malinovski en un contre un contre Leroy. Leroy fait l'arrêt. Ça revient sur Under. Under tire en reprise de volée, peut-être demi-volée, directement, et c'est repoussé sur la ligne par le défenseur ajaxien Diallo, je pense, si je me rappelle bien. Et cette occasion, pour moi, c'est la meilleure occasion du match, puis elle aurait dû rentrer. Comment on peut expliquer l'occasion en tant que telle, mais aussi ce manque d'envie dans les premières 45 minutes de la part de l'Olympique de Marseille, Ludo?
Ben, c'est ce qui me gêne. Ils étaient en vacances, c'était un match amical et ils n'avaient pas plus envie que ça de gagner ce match. Ça a fait tourner le ballon, ça avait la possession. Après, je trouve quand même que en première mi-temps, parce que ce n'était pas le cas en deuxième, mais en première mi-temps, que ce soit nos pistons ou nos créateurs, ils n'étaient pas du tout au rendez-vous pour faire la différence, pour faire le bon centre, pour faire le geste décisif. Donc, on n'a pas été inquiétés de la première mi-temps. On a eu la possession. Je crois qu'on a fini avec une possession de dingue la fin de la première mi-temps. Mais aucune occasion dangereuse. Je crois qu'il y a une tête de Mbemba si, sur un corner ou de Balerdi, je ne sais plus, en première mi-temps. Et c'est tout. Et c'est tout. Donc, ouais, tu sentais des joueurs qui n'avaient pas envie de forcer, qui n'avaient pas envie de donner le surplus pour aller marquer ce but. Et ça donne une première mi-temps assez soporifique, quoi, face à un adversaire qui n'a strictement rien montré et n'avait rien à montrer, quoi.
Exact. Et oui, c'était une tête de Mbemba à la 34e minute sur un corner qui passe vraiment à côté des buts. Mais bon, oui, effectivement, je l'ai même oublié. Merci de m'avoir rappelé. Mais c'était quand même très, très terne comme première mi-temps. Et tu vois, et c'est là où, à la mi-temps, il y a un changement. Puis Ruben Blanco, de ce que j'ai compris, il s'est blessé. Et on a Paulo Lopez qui rentre sur le terrain. Encore une fois, j'aurais aimé que ce soit Simon qui soit là et qui soit rentré sur le terrain. Mais non, vu que Igor Tudor a décidé de, encore une fois, garder Simon au placard, je pense que ça aurait été un très, très bon match pour Simon, au moins déjà d'être sur le banc. Et il aurait eu l'occasion de rentrer dans ce cas-là, vu que Blanco s'est blessé.
Mais bon. Moi, je peux être dur avec les jeunes de l'OM. Par contre, Simon, on l'a quand même beaucoup vu en pré-saison depuis 2-3 ans maintenant. Et à chaque fois qu'il a joué avec les pros de l'OM sur des amicaux, il a toujours été très bon. Et pour le coup, j'ai pas compris. Blanco a fait une bonne saison, il n'y a pas de souci sur les matchs qu'il a fait, mais j'ai pas compris qu'on soit allé chercher un numéro 2 et qu'on n'ait pas mis Simon en numéro 2, quoi.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Je comprends pas non plus. Je comprends pas non plus. Il y a pas de grosse occasion en début de mi-temps. C'est à la 55e minute qu'on voit la plus grosse occasion encore une fois. J'ai bien aimé le fait que les joueurs se trouvaient dans ce match-là. Et avec tout le temps, peut-être 90% du temps, Malinovski à la finition. Sanchez qui déborde sur la droite, qui centre en retrait pour Under. Under qui voit que l'angle est fermé, il glisse le ballon directement à Ruslan Malinovski. Malinovski, quand même, malgré l'écran de défenseur qu'il y avait devant lui, trouve un petit trou, puis vient mettre le ballon à rat-terre, puis Benjamin Leroy qui sort une parade, quand même très très bonne parade de la part de Leroy, et puis ça reste encore 0-0. Malinovski encore une fois à la finition, Benjamin Leroy encore une fois à l'arrêt. Tu t'attendais à ce genre de film de match arrivé à la 55e
ouais,
minute?
Écoute, on commence à avoir l'habitude d'avoir des Neuer en face de nous tous les week-ends. Donc non, mais c'est assez hallucinant quoi. L'arrêt que fait Leroy, quand tu vois l'arrêt de Samba aussi à Lens, à chaque fois ils te font des matchs contre nous. Donc te dis, est-ce que c'est nous qui sommes trop mauvais et qui les faisons briller à chaque fois, ou est-ce que c'est eux qui sont ultra motivés, tout ça. Et quand t'arrives à les battre alors qu'ils ont un état de grâce, tu te prends le poteau, donc ça devient compliqué après derrière quoi.
Ouais, effectivement, parce que juste après il y a le poteau de Vertu, tu l'as bien mentionné, donc Vertu qui frappe aux 25 mètres puis qui trouve le poteau droit de Benjamin Leroy, donc en effet c'est aussi cette malchance là. Après, tu sais, Benjamin Leroy, c'est pas un mauvais gardien. Hein. Il a toujours été très solide comme gardien.
Moi, à chaque fois que je regarde les matchs de l'OM, j'ai l'impression que le championnat de France a le meilleur gardien du monde à chaque fois.
Ouais, non, je suis d'accord. Non, mais honnêtement, je pense Benjamin Leroy, bon, pas maintenant parce qu'on a quand même Simon, mais si tu sais, moi je l'aurais bien pris comme deuxième gardien assez facilement. À l'Olympique de Marseille, je trouve qu'il fait du bon travail. Comme deuxième gardien, ce serait parfait.
Mais alors, tu vois, tant on n'a rien vu en première mi-temps, tant le début de deuxième mi-temps, enfin là, quand de la période où tu parles, là, vers la 55e.
60e, là, avec le...
Les 10 minutes, là, d'après le début de deuxième mi-temps, jusqu'à... il est plutôt bon. On trouve enfin des combinaisons, ça passe la défense, il y a des frappes, il y a des arrêts, il y a le poteau, ça pousse. Mais ça marque pas quoi.
Il te manque
le petit truc quoi.
Ça marque pas et je trouve que Tudor casse le rythme avec trois changements, avec Klose qui est remplacé par Nuno Tavares, Balerdi qui est remplacé par Bailly et Sanchez qui est remplacé par Vitinha, et je trouve que ça casse le rythme à ce moment-là. Je ne sais pas si tu es d'accord, mais je pense que cette triple substitution, ce n'est peut-être pas le meilleur moment de la faire.
Je suis d'accord avec toi. Après, j'avais l'impression que c'était déjà décidé avant de faire jouer tout le monde sur ce match-là. Et je pense qu'il n'y a que le petit Elmaz qui n'est pas rentré parce qu'il y a dû avoir le changement de gardien. Mais je pense que tout ça, il avait prévu, même avant le match, quel que soit le résultat, de faire tourner tout le monde à la 60e.
C'était 65e, puis après, il y a, comme j'ai dit, le rythme est complètement cassé. Il n'y a pas grand-chose qui se passe du tout.
Tu as Vitinha quand même.
Mais Vitinha, c'est...
Le petit piqué qui fait au-dessus.
Vitinha, c'est à quelle minute qu'il fait le petit piqué? Parce que j'essayais de retrouver...
Ah, c'est peut-être plus tard, ouais. Mais oui, il y a cette action-là, là, où il se décale bien sur le côté. Il met son petit piqué qui passe juste au-dessus des cages.
Oui, en effet, mais je n'arrive pas du tout à trouver cette action-là. Je pense que ça arrive plus tard. Ouais, non, tu as raison. C'est juste après ça, ça rentrait peut-être 5 minutes après.
Bah, je triche, hein, je viens de revoir le match.
Je sais, moi, je n'ai pas eu le temps de le voir, il est trop tôt pour moi. Mais par contre, il y a le dernier changement d'Igor Tudor avec Malinovski qui sort et c'est Régis Mugue qui rentre. À ce moment-là, on voit une belle action. On voit Guendouzi qui va donner le ballon à Vitinha sur la droite. C'est là en fait. C'est à 81e minute. Et c'est là où il tente le piqué du droit qui va au-dessus de la lucarne opposée. Il est à la 81e minute, donc bien plus tard. On parle de 65e à la 81e, il n'y a rien. Par contre, il y avait peut-être une option avec Vertu qui était... un peu plus seul du côté du poteau gauche. Est-ce que tu penses que c'était la bonne décision de la part de Vitinha? Après, on demande tout le temps.
Oui, c'est un attaquant. Non, c'est un attaquant.
C'est ça, on demande tout le temps à l'attaquant d'être un peu plus égoïste et de tenter sa chance. Donc.
Il doit être tueur. Il doit être tueur.
Je suis d'accord. Juste après, c'est là que à la 84e minute, que Ajaccio commence à se montrer un peu plus, à se créer quelques petites occasions. Et Clément Vidal qui ouvre le score à la 88e minute. Il récupère le ballon en plein milieu du terrain. Il s'avance à la suite d'un corner. Il contrôle, reprise de volée, pouf, directement dans le but de Paulo Lopez. Il ne pouvait rien. Encore une fois, un geste limpide et parfait de la part d'un adversaire de l'OM. On l'avait vu contre Strasbourg aussi. C'est comme... On est, quelque part, on a comme l'impression qu'on est maudit. Hein.
Ouais, cette saison-là, sur cette saison, honnêtement, entre, comme on dit, dans les zones décisives, hein, les gardiens en face qui font des arrêts exceptionnels, et puis nous, derrière, à Brest, c'est... une jambe qui traîne et qui contrôle la balle, contre Strasbourg, une frappe de 30 mètres qui part en pleine lucarne. Le but de Fofana, il en met pas 50 comme ça par saison. Voilà. Et là, il faut savoir que ce que tu n'as pas précisé, c'est qu'avant le but, donc avant le corner, il y a une frappe qui est sortie par Lopez. C'est les deux seules frappes cadrées du match de Ajaccio. Hein.
Ah, mais c'est ça, c'est pour ça que j'ai dit à la 84e minute, c'est là qu'il commence à se dévoiler un peu plus. Hein.
Et tu as l'impression que, en fait, c'est un peu notre saison, tu vois. Parce qu'hier, même sans faire un bon match, même sans être vraiment bon, franchement, tu marques avant la mi-temps et derrière, voilà, le poteau qui rentre, par exemple, tu finis le match à 3-0 pour l'OM. Et puis voilà, tu vois. Mais ça bascule cette année, je ne vais pas faire le bilan, mais à chaque fois, ça a basculé dans l'autre sens. Ouais. Et là, ça ne passe pas. Et derrière, tu te fais punir à la 88e. OM, fournisseur officiel de Prix Pouska, hein, parce que tu prends des buts d'un autre monde à chaque fois. et puis voilà, et tu finis le match comme ça. En plus, avec une équipe qui n'a pas envie de se rebeller derrière, donc qui était déjà en vacances. Donc bon, compliqué quoi. Compliqué, frustrant, énervant. Et je trouve que finir la saison là avec 3 défaites, ça fait très, très mal. Quoi.
J'avoue que ça fait très, très, très mal.
Même s'il n'y avait plus d'enjeu.
Mais voilà. Et bon, finalement, fin du match, il n'y a pas eu même de révolte dans les 5 dernières minutes. On n'a pas vu grand-chose. Les joueurs avaient déjà abdiqué. Fin du match, défaite contre Ajaccio, déjà relégué. C'est quand même honteux. Moi, je trouve ça très, très honteux, en fait.
Ajaccio prend 6 points contre nous cette année. Le dernier du championnat prend 6 points contre nous cette année.
Ça, c'est encore plus. Non, l'avant-dernier, non.
Ouais, c'est pareil. Ouais,
le dernier, ça a changé. En fait, ils sont même pas... Ils sont 18e. Ils ont fini 18e parce que 3 a fini 19e, puis Angers a fini 20e. Donc, juste pour mettre les pendules à l'heure. Parlons un peu de nos tops et nos flops sur ce match-là. Je pense que ça va être très intéressant. Je te laisse commencer ou j'y vais moi? Vas-y.
Allez,
vas-y, vas-y,
bah,
vas-y.
sur les tops, je vais mettre Balerdi, qui a été très bon derrière, donc j'en profite. Hein. Je vais mettre Balerdi, je vais mettre Guendouzi, qui a fait un très bon match, je trouve, et après Sanchez pour son activité devant, quoi. Et je pense que c'est peut-être les trois seuls, allez, à une ou deux exceptions près, de joueurs qui sont rentrés sur le terrain avec l'envie vraiment de jouer comme n'importe quel match et d'aller gagner ce match-là. Et c'est ce qui nous a vraiment manqué hier pour moi. Au niveau des flops, j'ai envie de mettre tout le reste de l'équipe pratiquement, mais... Mais ouais, je sais pas, mais c'est ce que je te disais, je suis emmerdé en fait avec ce match parce que tu peux pas dire qu'ils sont passés à côté, qu'ils ont été nuls, etc. Mais le match, il est fade en fait. Donc, ouais, malgré tout, moi je trouve que Under et Malinowski, ils étaient en dessous en termes de jeu. Ils ont pas fait un mauvais match, mais c'était à eux de faire la différence et ils l'ont pas fait pour moi. Et puis voilà, Kolasinac, je l'ai pas vu.
T'es pas obligé d'en mettre trois, hein, si jamais t'as.
Voilà, non, deux, mais bah, ouais, et puis Tudor, je pense aussi qu'il était déjà ailleurs. Si on reparle de sa compo, de ses changements, etc. C'était pas en fonction du match, c'était déjà pré-fait avant, et je le mettrai en flop aussi.
Bah, je vais être un peu plus précis. En tout cas, je suis pas du tout d'accord avec toi pour Malinowski. Je trouve que il a fait un très bon match. J'ai beaucoup aimé son match. Après, oui, il a pas marqué, mais d'un autre côté, il a été le joueur le plus dangereux dans ce match-là. Tu sais, il a tenté des frappes. Oui, ok, il a deux frappes qu'il a envoyées dans les nuages, mais le reste du temps, il a quand même cadré trois matchs.
Le drop que tu nous fais là, il est magnifique. Mais,
hein?
Le drop qu'il nous fait là dans le public, magnifique, il a mis la mer le ballon.
Mais il a quand même trois tirs cadrés, quand même assez intéressant. Dans son activité, il a quand même été assez intéressant. On le voit par exemple sur la passe de Guendouzi. Non, moi je trouve qu'il a été très intéressant. Après, pas de là à le mettre en top, mais de le mettre en flop, je trouve ça quand même assez osé. Moi, mes tops, ben, c'est extrêmement simple. Je suis d'accord avec toi pour Balerdi. Je trouve qu'il a fait un très, très bon match. J'ai bien aimé Léo Balerdi dans ce match-là. Un joueur que tu n'as pas mentionné, que j'ai trouvé quand même très, très bon, c'est Issa Kabore. Je l'ai trouvé vraiment bon dans ce match-là.
J'ai vraiment aimé
son activité. Je sens que ce joueur-là a beaucoup progressé. On le disait en début, en milieu de saison, on ne comprend pas, il n'est pas en train de progresser, c'est de la merde, il ne faut rien, et ainsi de suite. On l'avait vraiment descendu. Mais il faut le dire que dans le dernier droit, dans les 10-15 derniers matchs, Issa Kabore a vraiment montré ce qu'il a appris.
Et puis, il a pris la place de Tavares. Hein.
Puis, il a pris la... Bon, après, ce n'était pas très difficile avec ce que l'autre faisait, là. Mais non. Mais honnêtement, je trouve vraiment que Kabore a eu un très, très, très bon match. Et... autre joueur, et je vais être d'accord avec toi aussi, c'est Guendouzi. Je trouve qu'on a vu le Guendouzi de on a revu enfin le Guendouzi de l'époque de Sampaoli. Ce qu'on n'avait pas vu, est-ce que c'est par sa position sur le terrain qui lui va un peu mieux, de jouer un peu plus reculé? Ça doit être ça, parce qu'on a vu un Guendouzi beaucoup plus impliqué, puis beaucoup plus hargneux. Après, est-ce que c'est parce qu'il joue son dernier match sur les couleurs de l'Olympique de Marseille?
Non, moi je pense que c'est parce qu'on a eu un jeu hier de possession qui correspond beaucoup plus que ce qu'on a fait toute l'année, en fait.
Ouais, aussi, possible. En effet. Pour ce qui est des flops de mon côté, bah pour moi, il y a un seul gros flop et c'est Igor Tudor. Honnêtement, j'en reviens toujours pas. J'ai parlé de sa compo de départ, j'en reviens toujours pas. Pour moi, c'est inadmissible. Le fait que ces changements cassent le match, pour moi, c'est inadmissible à ce niveau. Et enfin, le fait qu'il ne se présente pas en conférence de presse, après coup, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Que tu n'avais pas affronté les journalistes après des décisions pourries que tu as prises, c'est inadmissible. Tu as beau avoir vécu tout ce que tu as vécu, non, ça ne se fait pas. Et pour moi, c'est le seul flop de ce match-là, Je pense que la défaite.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Et entièrement et à 100% relié à Igor Tudor. Aussi simple que ça. Je suis extrêmement énervé. Mais on fera le bilan de sa saison la semaine prochaine. Je ne parle pas de sa saison. Je parle de ce match-là.
Moi, honnêtement, je ne sais pas si tu comptes en parler après, mais si on parle de... Je trouve que le manque de respect de Tudor sur le fait de ne pas se présenter à la presse à la fin du match est simplement honteuse. Ouais. Parce que je pense que c'est la moindre des choses. La direction a toujours été correcte avec lui, le public aussi, finalement. Ça ne te coûte rien d'y aller, de faire un truc très court. Merci à tous, bonnes vacances et ciao. C'était la moindre des choses, il me semble, et je trouve que c'est un manque de respect pour tous les suiveurs de l'OM.
Ben, honnêtement, moi, je suis un futur employeur qui potentiellement voudrait embaucher Igor Tudor. Ben, moi, ça me donne plus trop envie de le faire.
Hein. Non, mais clairement. Donc, il y a ça. Par contre, alors, c'est pas pour prendre sa défense, mais j'ai vraiment l'impression qu'il s'est senti... aussi trahi dans le sens où lâché complet par le groupe. Je pense qu'il ne s'attendait pas à ce que ce groupe réagisse comme ça et ne mette pas l'envie qu'il fallait pour aller gagner ce match. Quoi.
Ouais, mais ça, on va en parler la semaine prochaine, lâché par le groupe. Mais après, tu regardes.
Pour le match d'hier.
Sur les cinq derniers matchs, c'est 4 défaites de l'Olympique de Marseille.
Ah oui, non, mais on est d'accord.
Sur les 5 derniers matchs, c'est 4 défaites de l'Olympique de Marseille, sachant que l'OM a perdu 9 matchs sur toute la saison. Donc, tu as 50% des défaites qui se passent sur les 5 derniers matchs.
Oui, non, mais d'accord. Mais parce qu'après, les 3 derniers matchs, il n'y avait plus d'enjeu non plus. Donc, à un moment donné.
Contre Lille, il y avait de l'enjeu.
Mais je pense honnêtement que. Ouais, il y a vraiment quelque chose. J'aimerais bien savoir, ça va sortir de toute façon, mais j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé là sur ces dernières semaines, depuis le match de Lens dans les vestiaires. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses où on n'est pas au courant et qui a dû se passer quoi en coulisses.
En tout cas. Voilà ce qui donne un peu ce match-là, avec les tops et les flops. On va jeter, avant de clôturer un peu ce podcast, on va jeter un coup d'œil sur le classement de la Ligue 1, parce que le classement final de la Ligue 1, que je trouve quand même assez intéressant. Oui, c'est vrai que notre podcast est 100% sur l'Olympique de Marseille, mais l'Olympique de Marseille fait partie d'une Ligue 1 qui est quand même assez intéressante. Puis c'est quand même beau de voir un peu, de faire un petit survol de la Ligue 1 en fin de pod. Finalement, le Paris Saint-Germain a perdu son dernier match contre le Clermont à domicile sur le score de 3-2. C'est quand même assez drôle. Lens termine sur 5 victoires consécutives et finalement termine à un seul point du Paris Saint-Germain avec 84 points. Quelle saison magnifique de la part des nordistes. C'est vraiment magnifique. Marseille en troisième position, on le savait déjà depuis 2 journées. Rennes termine en 4e position et qualifié pour l'Europa League. Lille se qualifie pour l'Europa Conference League en 5e position, sachant que Toulouse aussi sera qualifié pour l'Europa League en ayant gagné la Coupe de France. Les équipes qui ratent l'Europe et qui sont, c'est quand même choquant, Monaco en 6e place, Lyon en 7e place, puis Nice en 9e place. C'est quand même assez ridicule. C'est quand même trois équipes avec beaucoup de budget aussi. Et la relégation, finalement, Nantes se sauve in extremis en Ligue 1.
À la grande joie de notre ami Adi.
À la grande joie, à ma très, très grande joie, parce que c'est quand même un club mythique, même si je comprends que Kita et ainsi de suite, on n'aime pas trop. Et les 4 équipes reléguées, Auxerre, c'est dommage. On connaît tous le centre de formation de la JOCR et et sa position dans le paysage du football français, mais ce n'était pas suffisant cette année pour eux. Ajaccio, malgré sa victoire, est relégué. Troyes est relégué et Angers est relégué. Bon, les trois derniers, on s'y attendait depuis quand même un bout, puis ça a l'air extrêmement logique de les voir descendre parce qu'ils ne méritaient pas d'être à ce niveau-là. Pour ce qui est d'Auxerre, ils avaient quand même monté un regain de confiance à un moment donné, mais tu regardes aussi sur leurs cinq derniers matchs, ben c'est deux matchs nuls, trois défaites. Et c'est ça qui fait la différence, tandis que Nantes a au moins gagné un match, qui est le dernier match et le match le plus important finalement. T'en penses quoi du dénouement de cette Ligue 1, tu sais, avec du recul?
Bah écoute, moi je suis quand même déçu pour Auxerre parce que vu la deuxième partie de saison qu'ils avaient fait et puis vu ce qu'a fait aussi Isaac Touré, hein, notre Marseillais en prêt là-bas, je pensais vraiment qu'ils allaient arriver à se sauver. Mais voilà, comme tu as dit, dans le Money Time, après ils ont un calendrier très très difficile aussi, hein, parce que tu parlais de trois défaites de nul, mais ils ont joué Paris, Marseille, Lens, et je ne sais plus quelle équipe aussi, donc ça a été très très costaud pour eux.
Non, les cinq derniers matchs, ils n'ont pas joué Marseille. Les cinq derniers matchs, c'était Clermont, Brest, Paris, Toulouse et Lens.
Ouais, bon.
Ok, tu as Paris et Lens, je comprends, mais tu as quand même Clermont, Brest et Toulouse.
Non,
si
mais
jamais
après,
tu veux vraiment te battre, si jamais tu as vraiment le niveau.
Après, si on fait sur l'ensemble du championnat, Angers et Ajaccio, pour moi, étaient largement en dessous de tout le reste du championnat. Troyes aussi, même si je pense que l'effectif pouvait espérer un peu plus lutter. Et après, Auxerre, si on compare par rapport à Nantes, Brest et Strasbourg, c'est celui qui était le moins armé aussi pour rester. Donc, de ce côté-là, pas trop de surprises. Par contre, je te rejoins, c'est sur la course à l'Europe. Qu'est-ce qu'on ne dirait pas si ça serait l'OM qui serait sixième ou septième comme Monaco et Lyon,
qui ont des
budgets plus importants de nous. C'est ce qu'a fait Monaco, c'est une catastrophe en plus, hein, parce qu'ils ont été quatrième pendant 20 journées. On a cru qu'ils allaient venir se mêler à la course au podium. Et puis au final, ils se sont écroulés complètement. Monaco, c'est tout ou rien. Début de saison, ils perdent tout. Après, ils enchaînent 20 victoires d'affilée pratiquement. Et ils reperdent tout la fin de championnat. C'est incompréhensible. Et Lyon, c'est une catastrophe industrielle. Hein. Ça fait quoi, 3 ans maintenant que Lyon n'est plus en Europe?
Ouais.
Ça commence à être
C'est difficile. C'est très difficile. Compliqué. Et même John Textor, le propriétaire, nouveau propriétaire de l'Olympique Lyonnais, a dit que ça va être difficile le budget pour l'année prochaine. Il doit avoir des discussions avec des NCG parce que de ce que j'avais compris, j'ai lu un article là-dessus dernièrement. Ils avaient dit que Jean-Michel Aulas avait dit qu'ils allaient faire 70 millions de ventes en fin d'année cette année. Puis Textor, il ne veut pas vendre autant parce qu'il veut rester compétitif pour l'année prochaine. Ça va être compliqué les prochaines semaines du côté de l'Olympique Lyonnais. Pour ce qui est de Monaco, je serais très surpris que Philippe Clément soit renouvelé. Est-ce qu'ils vont se lancer à la recherche d'un entraîneur? On sait que l'Olympique de Marseille aussi va chercher un entraîneur, mais on espère qu'il n'y aura pas des entraîneurs sur la même shortlist parce que sinon ça peut créer des petits problèmes, sachant que Monaco a un gros avantage financier avec tout ce qui est impôts.
Mais après, par contre, on peut parler de Rennes et Lille, par contre.
Ouais.
Rennes, c'est quand même un club qui, même s'ils arrivent à choper ça au dernier moment, parce qu'ils étaient en train de s'effondrer aussi, mine de rien, Rennes continue depuis des années à grandir, à se maintenir en Europe, à avoir une stabilité qui peut nous donner envie quand même, parce qu'ils sont quand même très réguliers. Ils auraient pu très bien faire péter Genesio au mois de mars quand les résultats étaient catastrophiques et que Rennes tombait. Mais bon, voilà, Rennes, c'est un club aussi qui est moins exposé. On l'a laissé travailler, on l'a laissé revenir. Et puis au final, ils accrochent cette quatrième place. Fonseca qui s'est fait descendre toute l'année aussi, hein, en disant « ouais, ça joue bien, mais il n'y a pas de résultat », ils arrivent à être là et à être en Europe quand même à la fin de l'année. Donc, très intéressant ce qui s'est passé. Et au final, sur ce qu'a proposé les équipes, est-ce qu'on est surpris par ce classement final? Moi, je trouve pas. Au final, il y a beaucoup de logique dans le classement à la fin de l'année, quoi.
Ouais, je suis D'accord. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Je trouve qu'il y a beaucoup de logique. Après, j'aimerais revenir un peu sur la saison de Rennes. Oui, c'est vrai qu'il y a eu ce petit passage à vide, mais quand tu y penses, tu sais, Rennes, c'est quand même huitième de finale de Ligue Europa. C'est quand même pas mal. Ils se font sortir quand même par Shakhtar de Donetsk, qui est pas une petite équipe d'Europe, on s'entend. Juste après, tu regardes un peu
Après,
la fin de saison. Hein. Hein?
c'est une grosse faute de Genesio, la défaite contre le Shakhtar.
Bah, ils gagnent
C'est
2-1 à
une défaite
domicile.
tactique. Ouais, c'est une défaite, non, mais c'est une défaite tactique. Ils doivent pas jamais perdre là-bas, à jouer avec 5 milieux de terrain. Bref, je vais pas
Bah,
revenir
ils ont quand même
sur
fait
la tactique de Rennes.
2-1. Ils ont quand même fait
Ils doivent jamais
2-1. Ils ont perdu
le perdre.
2-1 en Ukraine, là. Ils ont perdu 2-1 en Ukraine. Donc, ce n'est pas non plus. Ce que je veux dire, c'est que c'est une sortie honorable de
Oui.
sortir, tu sais, aux dépens de Donetsk. Après, tu regardes la fin de saison du Stade Rennais. C'est quand même très intéressant. Oui, ils jouaient beaucoup d'équipes relégables, mais quand ils ont joué les équipes relégables, contrairement à un autre club, ben, ils jouent contre Troyes, ils gagnent 4-0. Ils jouent à Ajaccio, ils gagnent 5-0. Après le gros match contre Monaco, ils gagnent 2-0. Ils s'imposent à Brest 2-1. Bah, c'est comme ça que tu termines une saison quand tu as des ambitions.
Exactement.
Contrairement à l'Olympique de Marseille qui va complètement perdre, comme on a dit, deux fois contre Ajaccio. Ce qui est quand même ridicule. Pour ce qui est de Lille, ce
Et
que je
Rennes,
trouve.
n'oublie pas non plus qu'ils ont perdu leur meilleur joueur début janvier.
Ouais, ils ont perdu Martin Terrier, effectivement. Faut pas oublier aussi qu'ils ont perdu un très bon défenseur avec Truffert aussi, vers, je sais, 2, 3 mois maintenant qu'il est blessé. Tu sais, ils ont perdu deux pions très essentiels et puis ils ont quand même réussi à sortir leur épingle de jeu. Tandis que tu regardes du côté de Lille, dans les 8 derniers matchs, ben, je suis désolé, c'est 6 victoires, un match nul et une défaite. Non, pardon. 5 victoires, 2 matchs nuls et une défaite. Et les 2 matchs nuls, bon, parfait, t'as des matchs nuls un peu compliqués. Tu fais un match nul à Auxerre. Bon, Auxerre allait bien. Puis tu fais un match nul à Monaco, ce qui est correct. Après, le reste du temps, bah, tu vas battre Montpellier, tu bats Ajaccio facilement 3-0, tu bats l'OM, tu bats Nantes. Et puis le dernier match, tu fais un 1-1 à 3. Bon, ils auraient peut-être pu remporter 2 points de plus. En remportant 2 points de plus, ils auraient été quatrième.
Il y a pas de surprise, hein. Tout le monde te le dit, hein. Si fin avril, début mai, tu es toujours dans la course, c'est là que tout se joue, en fait, hein. Tu joues ta
Voilà.
saison sur les 4-5 derniers matchs. Hein.
Voilà. Bon, finalement, on a fait un petit tour de la Ligue 1 et du classement de Ligue 1. Un petit sujet comme ça rapide, parce qu'on est quand même des fois en Amérique, mais comme tu le sais, moi je suis libano-canadien, donc mon équipe nationale est quand même très importante, mes équipes nationales sont quand même très importantes. Jonathan David, il reste, il s'en va?
Je pense que ça va être dur pour Lille de le garder.
Voilà. Ouais. Tant qu'il ne signe pas à Paris, moi je suis content. S'il signe à Paris, non, je ne pourrais plus l'accepter.
Ouais, je pense qu'il aura l'intelligence canadienne d'aller signer en première
Ouais,
ligue.
en tout cas, ça va être intéressant de voir le futur de Jonathan David. Ça va être très, très, très
Tu le vois aller
intéressant.
à Paris là? Ça pousse pour aller à Paris?
Ben, il paraît qu'il y a eu des approches de la part du Paris Saint-Germain pour aller là-bas. Beaucoup d'approches en Premier League, mais dernièrement, il y a des approches de Serie A aussi. Donc, je ne pense pas que ce serait la bonne ligue pour lui, la Serie A, mais on
Ah,
verra.
on disait ça pour Osimhen, hein, et puis tu as vu le résultat au
Ah oui,
final.
il a tout cassé. Il a tout cassé à Napoli. Donc voilà, c'est ça qui va clôturer un peu notre podcast des Fossés en Amérique. Ludo, merci beaucoup d'avoir été là.
Merci à toi, Adi. Encore une belle saison passée à vos côtés, sans
Toujours
négliger.
super intéressant. On est toujours là sur les Fossés en Amérique. Oui, on fait des podcasts quand on a le temps. On essaye chaque semaine, des fois on en manque, mais la plupart du temps, on est quand même assez régulier. La semaine prochaine, gros, 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 gros épisode. Ça va être un long épisode parce qu'on fait un bilan complet de la saison. Donc, attendez-vous du contenu pour un bon 2 heures. Avec le système de Fosséos, vous ne savez pas c'est quoi, ben, il y aura juste à écouter la semaine prochaine, vous saurez c'est quoi. C'est un peu la tradition des Fossés en Amérique. J'ai hâte, hâte, hâte. Je vous dis, passez une super belle semaine et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Fossés en Amérique.